Bonjour.
Ça a été très rapide quand même pour la sortie des résultats de cette étude et de ce sondage que vous avez mené du 18 au 26 janvier. Quand même pas mal de jeunes qui ont participé au sondage.
Ah oui, écoute, c'est au-delà de nos espérances. Je vous dirais qu'au départ, on pensait travailler seulement avec les écoles de l'Estrie. Et puis finalement, en cours de route, la Mauricie, Centre-Québec, a décidé de se joindre à nous. Donc, aussi bien qu'on se retrouve aujourd'hui avec 47 écoles, autant secondaires, cégep qu'universités qui ont participé pour un grand total de 16 500 jeunes. Donc oui, c'est énorme et ça faisait beaucoup de données à analyser, mais des analyses très pertinentes, à mon avis, pour déterminer la suite des choses.
Bon, si on résume ce que ça donne comme résultat de sondage, un jeune sur deux présenterait des symptômes d'anxiété ou de dépression.
Oui, exactement. C'est peut-être la statistique qui frappe le plus l'imaginaire, je dirais, parce que un sur deux, c'est absolument pas banal. Ceci étant dit, je vous dirais qu'on avait à peu près cet ordre de grandeur-là dans les études qu'on a menées chez des adultes un peu partout à travers la province en novembre 2020. Mmh. Et on avait remarqué que chez les 18-24 ans, c'était à peu près ça, là, un sur deux qui affichait des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété et de dépression. Donc, on est à peu près dans les mêmes hauteurs. Ceci étant dit, là, on rajoute le groupe des 12-17 ans et c'est peut-être ça là, la nouveauté de dire OK, on savait que ça touchait fort les 18-25 ans et maintenant on a la confirmation que ça frappe aussi quand même assez fort chez nos 12-17 ans.
Oui. Il faut quand même expliquer aux gens, on parle de symptômes compatibles à l'anxiété et la dépression. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Juste pour bien préciser, là.
Oui, c'est un terme qui est assez long à dire, mais je pense que c'est important de demeurer précis parce que, bon, premièrement, on n'est pas dans des diagnostics. Mm-hmm. Évidemment, c'est un questionnaire en ligne, donc les jeunes ne sont pas outillés pour nous dire s'ils ont un diagnostic ou pas. Et en plus, on sait que plusieurs personnes vont souffrir en silence, donc on ne veut pas juste les diagnostics. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va questionner sur une série de symptômes qui sont compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée, qui est un des troubles anxieux les plus fréquents. Et on a aussi toute une série de symptômes qui examinent les risques de dépression majeure, un peu comme ce qu'un médecin ferait en clinique. Là, c'est vraiment les mêmes symptômes qui sont questionnés. Et tout ça, c'est à partir d'échelles de mesures qui ont été validées et utilisées là, des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres études. Donc, ça nous permet aussi là, d'avoir une certaine comparaison avec d'autres études, par exemple.
Oui. Mais lorsqu'on parle de symptômes compatibles, et vous le dites bien, là, on ne fait pas des diagnostics, mais ça donne une tendance, ça donne une image quand même de la situation des jeunes. C'est ce qu'on doit comprendre.
Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse dire qu'un jeune sur deux tombe dans la catégorie des symptômes compatibles avec dépression ou anxiété, ce que ça peut vouloir dire, c'est que c'est ce jeune-là ou ces nombreux jeunes-là vont avoir un cumul de symptômes. C'est pas juste un ou deux symptômes. Donc, nous, on calcule un score. Donc, il faut vraiment avoir, par exemple, pour la dépression, des pertes d'appétit importantes avec de la tristesse soutenue plusieurs jours au cours des deux dernières semaines, avec peut-être même des idées noires, avec un sentiment de culpabilité très intense. Donc, c'est vraiment la présence de plusieurs de ces symptômes-là et sur plusieurs jours au cours des deux dernières semaines qui nous font dire là, qu'un jeune sur deux affiche des symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc, c'est quand même assez important là, comme
ouais.
Ça.
On n'a pas de comparable. Si je comprends bien, des études similaires, des sondages similaires, on en a très peu, entre autres, pour les adolescents. Parce que de sortir ça comme ça, c'est une chose, mais si on avait été vérifié deux ans, trois ans avant, exemple, la pandémie, est-ce qu'on aurait eu potentiellement les mêmes signaux?
Bien, c'est un super bon point. Pour la question de l'échelle de mesure sur les symptômes d'anxiété et de dépression, on cherche fort et il n'y a pas tant d'études à l'échelle de grandes populations de jeunes. Mm-hmm. Donc ça, effectivement, c'est plus difficile de trouver des bons comparables. Par contre, il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'en janvier dernier, peut-être que certaines personnes vont se rappeler qu'on a mené une grande enquête sur le vapotage chez les jeunes en Estrie au secondaire. Oui, oui. Et dans le cadre de cette enquête-là, on avait une question sur la santé mentale. C'est comment perçois-tu ta santé mentale? Et on a posé exactement la même question à nos écoles secondaires, cette fois-ci en janvier 2021, donc c'est un an après. Et ce que je peux vous dire, c'est que le pourcentage de jeunes qui disaient « Ouais, ma santé mentale est passable ou mauvaise », ben c'était de 11% en janvier 2020 au secondaire. Et là, ça a monté à 30% okay. pour le même groupe d'âge. charge juste un an après, donc trois fois plus élevé.
OK. Il y a certainement des facteurs qu'on peut, même je dirais, quasi facilement identifier. Oui, le contexte de la pandémie, puis vous l'avez fait avec les derniers chiffres que vous l'avez mentionné, qu'il peut y avoir une différence, mais tout le contexte concernant l'école, le parascolaire, avec pas de sport, puis tout ça, je pense qu'on peut relier, entre autres, ça à la situation et aux résultats que vous avez, là.
Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, puis ça, je pense que c'est la partie la plus intéressante du sondage, on l'a travaillé avec les écoles, d'ailleurs, cette partie-là, c'est d'identifier une liste de facteurs de stress potentiels là, qui, on pense, peuvent nuire en temps de pandémie à la santé mentale des jeunes. Et on a aussi posé plusieurs questions sur les pistes de solutions que les jeunes pouvaient voir comme étant particulièrement utiles au cours de la prochaine année pour les aider à avoir une meilleure santé mentale. Et vraiment, le message est clair chez les jeunes, là. C'est pas le virus qui leur fait peur ou en moyenne, c'est pas tant ça, c'est pas tant l'argent ou les pertes d'emploi, c'est pas tant le fait d'avoir été en quarantaine. Bon, c'est vraiment, vraiment le fait d'avoir été trop devant son écran, d'avoir été trop à distance, cours en ligne, pas assez en présentiel, pas assez de sport ou d'activité sociale ou culturelle. Donc, les jeunes le revendiquent, je dirais, de façon assez haute et forte. Comme quoi, ce qu'ils veulent, c'est un maintien des cours en présentiel et un retour des activités parascolaires comme ils avaient avant la pandémie.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ça? Parce que vous avez identifié des choses très intéressantes, puis que là, on le sait, ça émane de décisions de la santé publique, du gouvernement du Québec. Est-ce que vous comptez d'ailleurs déposer ça auprès des instances pour dire, regardez, là, on a des signaux importants, il faudrait peut-être revoir nos façons d'agir, entre autres envers les jeunes, en regard, entre autres, des mesures sanitaires?
Ah ben c'est déjà fait. J'ai le courriel facile. Je l'ai envoyé très largement ce matin à plusieurs de mes collègues. Et évidemment, je travaille là, au niveau national, donc je suis l'ancienne directrice de l'ESPRI, donc je connais très bien notre réseau de santé publique, autant au national qu'au régional. Ouais. Donc oui, tous mes collègues ont été avisés de ça. Et je vous dirais qu'au-delà de ça, au-delà de les aviser, je vous dirais qu'il y a cette propension-là de plus en plus à travailler à ce qu'on soit meilleur en santé publique, à tenir compte à la fois du virus et de la situation épidémiologique d'une part, mais aussi des différentes évidences qui grandissent à chaque jour sur les différents impacts psychosociaux qui découlent de nos décisions. Donc ça, là, cette agilité-là, essayer de regarder les deux côtés de la médaille avant de prendre une décision, je pense qu'on vient on vient meilleur au fil du temps et certainement que ces données-là pourraient influencer, qui sait, peut-être même des décisions dans les prochains jours, j'espère.
Ça vient documenter, en tout cas, ça ou certaines, là.
Oui, parce que écoute, chez les jeunes, les 12-17 ans, à ma connaissance, des études de cette taille-là et surtout aussi récentes, là, ça ne peut pas être plus récent que du 18 au 26 janvier, il n'y en a pas. Ouais. Je pense que c'est une grande force qu'on a avec le groupe d'externes de l'Université de Sherbrooke d'avoir pu collecter et travailler très, très rapidement pour partager l'information en temps opportun. Donc oui, je suis pas mal certaine que ces données-là vont venir s'ajouter aux autres évidences existantes pour apporter un poids supplémentaire et faciliter la prise des bonnes décisions pour nos jeunes.
Professeur Dr Mélissa Généreux, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mais ça me fait plaisir.